Personnage insolite sur Radio Grand Ciel. Bienvenue à tous les écouteurs de Radio Grand Ciel, présenté par
Elisabeth Cougé.
Je dirais plutôt Christina Fauta, parce que c'est toi qui vas nous raconter. Mais il ne faut pas oublier l'aide technique de Simon.
Merci Simon.
Voilà, Christine, tu vas nous faire donc découvrir aujourd'hui un personnage insolite qui nous entraîne loin dans le temps et dans l'espace.
Oui, puisque nous partons au XVIIIe siècle sur les pas d'un capitaine de vaisseau qui a sillonné les mers, exploré des régions lointaines et inconnues et dont la vie fut riche en péripéties et en aventures dramatiques. Il s'agit de Jean-François de Gallo, comte de la Pérouse.
Alors, il est né dans le manoir familial près d'Albi.
Près d'Albi, c'est là, sur les rives du Tarn, que vivent depuis 500 ans ses ancêtres. Ce sont des gentilshommes provinciaux de petite noblesse terrienne. La vie n'est pas luxueuse, le manoir est plutôt modeste et les enfants sont nombreux. Jean-François est l'aîné de 11 enfants. Il naît le 22 août 1741.
Et il est le seul garçon de la famille à atteindre l'âge adulte.
Il entre à 9 ans au collège jésuite d'Albi, qui est aujourd'hui le lycée La Pérouse. En décembre 1756, il n'a que 15 ans, il s'engage dans la marine.
Mais pourquoi la marine? Il habitait loin des côtes et on ne comptait aucun marin parmi ses ancêtres, il me semble.
C'est vrai. Il est né à 150 km de la Méditerranée, à 300 km de l'Atlantique. Mais enfant, il écoute avec fascination les récits d'un cousin éloigné, plus âgé, Clément de la Jonquière, qui s'illustra au Canada contre les Britanniques. Le domaine des Jonquières est proche de celui des Gallo. Du coup, toute cette région va devenir un nid de marins.
Un repère de marins.
Un repère de marins, exactement.
Alors, le voici donc élève d'officier à Brest, comme garantie parentale, puisqu'il fait payer les études. On donne une métairie sur les bords du Tarn au nom de La Pérouse.
La Pérouse, ça signifie le pierreux, voilà. Et c'est ajouté à son nom. Et ça fait mieux, de Gallo de La Pérouse.
Ah oui.
Le corps des officiers de marine, il faut le savoir, est une société close. Ils sont presque tous nobles. Et il faut de fortes recommandations pour être admis dans la royale, c'est-à-dire la marine de guerre. Après, ce qui compte, c'est l'avancement selon les capacités personnelles et bien sûr la conduite au feu. Il faut aussi le sens du commandement et puis des bonnes manières, parce qu'on reçoit ces jeunes officiers. Donc imaginons le jeune Jean-François dans son uniforme.
Son bel uniforme.
Son bel uniforme. Il porte des hauts de chausses et des bas de soie, une veste bleue échancrée et un gilet rouge, des épaulettes dorées, un chapeau à cornes et des chaussures noires à boucles dorées.
Le jeune Jean-François est indiscipliné et turbulent. Il ne rêve que de s'embarquer, là.
Ce qu'il fait quelques mois plus tard pour le Canada. Ce n'était pas trop dur, car de famille noble, il mangeait à la table des officiers et dormait dans un vrai lit. Un vrai privilège par rapport aux autres matelots.
Qu'il ne devait partager avec personne. Le voyage se passe donc sans histoire. Il repart au Canada, ensuite une deuxième fois, sur la frégate qui s'appelait le Zéphyr.
Avec cette fois un retour précipité vers Brest, poursuivi par un vaisseau anglais. C'est la guerre de 7 ans, 1756-1763. Et les bateaux français escortent des transports de troupes vers le Canada français. En mai 1759, à 18 ans, Jean-François est affecté au Formidable, un gros navire avec 80 canons et plus de 1000 hommes. Et il va connaître un terrible baptême du feu le 20 novembre 1759. La bataille voit le Formidable faire face à 15 bateaux britanniques.
Cette bataille navale est un véritable carnage.
Plus de 300 tués. Jean-François a la chance d'être légèrement blessé et fait prisonnier par les Anglais. Mais il n'oubliera jamais l'odeur âcre de la poudre, le bruit assourdissant des canons, les cris des blessés et des mourants.
Mais très bien traité par les Anglais. Il est l'hôte d'une famille anglaise et il ne pourra jamais haïr l'ennemi héréditaire.
Libéré, il revient à Albi après 3 ans loin des siens. C'est un jeune adulte, à présent riche d'expérience et d'aventure. À Brest, l'atmosphère est oppressante. Québec avait été prise par les Anglais, Montréal tomberait bientôt. Les postes français le long du Mississippi tombaient les uns après les autres. La guerre de 7 ans mettait fin à 2 siècles d'activité française en Amérique.
Jean-François est affecté au robuste, et qui part vers Terre-Neuve. C'est une mission, leur mission est de protéger...
Oui,
les lieux de pêche.
Exactement.
Le long de la côte de Terre-Neuve.
Voilà. Et en fait, la France réussit à maintenir une tête de pont sur le sol canadien. Et c'était important pour les marins bretons qui partaient à la pêche à la morue. Selon le traité de 1763, donc nous sommes sous Louis XV, la France perdait ses territoires en Inde, sauf 5 comptoirs, et ses territoires au Canada, sauf Terre-Neuve et Saint-Pierre-et-Miquelon. Quant à la Louisiane, elle sera vendue par Napoléon en 1803.
En octobre 1764, Jean-François vient d'avoir 23 ans. Il est promu enseigne de vaisseau.
Il travaille sur des bateaux de fret de commerce de bois, donc c'est de la marine marchande. Et il acquiert l'expérience de la navigation côtière. Il dévore les écrits des Lumières, Rousseau, Voltaire, Montesquieu.
Il lit aussi un ouvrage paru en 1756, intitulé « Histoire des navigations en terre australe ».
En fait, on ne connaissait qu'imparfaitement l'océan Pacifique. La Pérouse découvre tout un monde. Les terres du Sud existeraient-elles ? Il rêvait de contrées lointaines. La Grande-Bretagne serait-elle la future puissance de l'océan Pacifique ? Allait-on laisser les Anglais y régner en maître ?
Eh oui, ça en avait tout l'air. En 1772, son ami, le chevalier de Ternay, est nommé commandant-chef de tous les navires de la Royale dans l'océan Indien.
La Pérouse embarque sur la Belle Poule, un des plus beaux voiliers de la flotte française. Direction l'île Bourbon, qui va devenir la Réunion, puis l'île de France, qui est maintenant l'île Maurice, d'après Maurice de Nassau, un Hollandais qui l'a découvert en 1598. Et en 1715, en fait, l'île Maurice est reprise par les Français. Et elle s'appelle à ce moment-là l'île de France. Elle était restée pendant des siècles totalement inconnue. Et les dodos, tu sais ce genre d'animal étrange, les dodos déambulaient tranquillement dans les forêts semi-tropicales où ils pondaient un unique et gros œuf.
C'est là que la Pérouse rencontre un célèbre navigateur, Louis de Bougainville.
Bougainville qui a fondé une colonie aux Malouines, le nom vient de Saint-Malo, et qui a écrit le voyage autour de la Terre et d'où vient le nom de nos belles bougainvillées dans les jardins. La Pérouse se lie aussi avec Bernardin de Saint-Pierre, l'auteur de Paul et Virginie, qui vivent d'ailleurs à l'île Maurice ou l'île de France à l'époque. Et la Pérouse rencontre son grand amour, la jeune Éléonore, 16 ans, fille de commerçant. Une histoire d'amour aussi belle que poignante. Ils se fiancent en attendant qu'un courrier de la famille en France ne donne sa bénédiction. Car au XVIIIe siècle, le père devait absolument consentir au mariage de son fils.
Et pouvoir le bénir, c'était très important. Voilà. Et la Pérouse repart sur les mers comme commandant. Parcourt l'océan Indien, les Seychelles, puis l'Inde. Il va à Calcutta, Pondichéry, Ceylan, ensuite à Singapour, le Siam, en Thaïlande.
Il est même parfois pris à partie par des pirates. La Pérouse est un excellent commandant. Il ne perd aucun homme. Pour éviter le scorbut, et c'est rare à l'époque, il fait mettre dans le bateau quantité de fruits et de viande fraîche et il exige une propreté méticuleuse. Pas de châtiment, pas de coup de fouet. Ses hommes l'adorent.
La réponse du père arrive enfin, mais ce n'est pas ce qu'il attendait. Il est furieux. Parce qu'il crie à la mésalliance.
Et le père...
Pour épouser une fille de commerce, voilà. C'est pas possible.
Par contre, il cherche à lui organiser une alliance avec une femme de son milieu, Eliane de Vézian. La Pérouse ne sait plus que faire. Ni l'une, ni l'autre. Bon, il est marié avec la mère. Laissons-le à son indécision, le temps d'une pause musicale, en écoutant le 31 du mois d'août, un chant de marin.
Le 31 du mois d'août, nous aperçûmes sous le vent à nous. Le 31 du mois d'août, nous aperçûmes sous le vent à nous. Une frégate d'Angleterre qui fendait la mer et les flots pour aller bombarder Bordeaux. Le commandant du bâtiment fit appeler son lieutenant. Le commandant du bâtiment fit appeler son lieutenant. Lieutenant, te sens-tu le courage? Dis-moi, te sens-tu assez fort pour prendre l'Anglais à son bord? Le lieutenant, fier et hardi, lui répondit, capitaine, oui. Le lieutenant... lieutenant, fier et hardi, lui répondit, capitaine, oui, faites monter tout l'équipage. Je veille, c'est notre pavillon qui restera au créneau de nom.
Voilà, après cette jolie chanson marin, nous reprenons notre conversation et Christine va nous raconter l'histoire de la Pérouse.
1774. Louis XV s'étend après pratiquement 60 ans de règne. Louis XVI devient roi à 20 ans, mal préparé. Ce n'est pas un génie, mais il n'est pas sans talent, peut-être pas ceux d'un roi, mais il adore bricoler des horloges, par exemple, il s'intéresse au chronomètre, il lit avec passion les livres d'exploration. Il va jouer un rôle très important dans la vie de la Pérouse. Louis XVI entend parler de ce jeune officier de marine qui, prisonnier en Angleterre, avait visité l'observatoire de Greenwich. Il sait qu'au Canada, il a attaqué victorieusement des navires britanniques et qu'au lieu de la politique de la terre brûlée pour anéantir l'ennemi, la Pérouse laisse toujours intacte habitation et vivres par noblesse d'âme et humanité.
Louis XVI était soucieux de venger les défaites françaises de la guerre de 7 ans.
Et aussi, et d'offrir à la France ses dernières grandes victoires navales. D'ailleurs aussi, de soutenir l'indépendance des États-Unis contre l'Angleterre. C'était aussi pour marquer son opposition à l'Angleterre. Louis XVI décide de nommer la Pérouse lieutenant de vaisseau et lui décerne la croix de Saint-Louis. La Pérouse quitte l'île de France le 16 décembre 1776 sur la Belle Poule. Éléonore part discrètement pour la France 15 jours plus tard.
Ah. Bon, peut-être se retrouver.
Oui, peut-être.
Jean-François participe à la prise de la Grenade,
oui.
Puis part vers la baie de Hudson, enlever deux forts anglais.
Hudson était resté prisonnier, c'est lui qui a donné le nom à la baie. Hudson était resté prisonnier des glaces en hiver. Après des souffrances atroces, l'équipage s'était mutiné et l'avait abandonné dans un canot à la dérive qu'on ne revit jamais. C'est un endroit les plus isolés du monde au XVIIIe siècle, au nord du Canada. Et les bateaux de la Pérouse doivent manœuvrer pour éviter les icebergs dans les vents glacés et les courants dangereux. La Pérouse décrit avec humour les matelots dans les gréements, vêtus de fourrures d'ours et de phoques données par les Esquimaux, les Inuits.
C'est gentil.
On imagine. Ouais. Oui, oui.
Une nouvelle expédition ambitieuse se prépare pendant ce temps-là à Paris, dans le plus grand secret.
Sur les traces de James Cook, le célèbre navigateur anglais. Il est mort, James Cook, en 1778 en découvrant les îles Hawaï. Et comment est-il mort ? Mangé par les indigènes.
Oh, alors, difficile à imaginer, ils ont l'air gentils.
Des bateaux à la bannière fleur de lys, il y en a beaucoup qui parcourent les mers, comme Bougainville par exemple, mais simplement deux siècles après Magellan. Il y a Cartier, Champlain, Kerguelen, mais ce sont des voyages qui sont limités à une seule région. Et au fond, ils n'ont jamais parcouru tout le vaste monde comme Cook. Donc la France se doit de surenchérir.
Et que devient Éléonore pendant tout ce temps-là ? Elle attend ?
C'est ça. La Pérouse continue à la voir, mais sans se décider. Désespérée, Éléonore décide d'entrer au couvent. Pour la Pérouse, c'en est trop. Le conflit intérieur entre les devoirs filiaux et les élans de son cœur n'a que trop duré. Il l'aimait quand même depuis 10 ans déjà. Il galopa à bride abattue jusqu'au couvent et lui jura de l'épouser sans délai. Ils se marièrent à Paris quelques jours plus tard, le 8 juillet 1783. Aucun membre de la famille de la Pérouse n'était présent.
Un dénouement digne des drames populaires, finalement, sentimentaux de l'époque. Hein.
Entre le jour de leur mariage et celui du départ vers la dernière expédition, la Pérouse et sa femme ne passèrent que 3 mois ensemble.
Cette expédition est un grand voyage d'exploration.
Le roi Louis XVI s'impliqua à fond dans les préparatifs. D'ailleurs, il y a même eu un livre qui a été écrit, Le voyage de Louis XVI autour du monde. En fait, enfin, c'est ce voyage.
Oui, c'est ça, organisé voilà. Par lui.
C'est ça. Et il choisit la Pérouse pour conduire l'expédition. Et alors, en plus, c'est tout à fait étonnant, le couple royal a ouï dire des mésaventures sentimentales de la Pérouse et écrit directement à ses parents qui sidéraient, alors change complètement de comportement et se déclare aussitôt prêt à recevoir Éléonore. Il avait suffi à Marie-Antoinette d'un simple signe de son éventail.
Voilà, il suffisait d'un signe.
D'un signe de son éventail.
Comme dirait Goldman, voilà. Voilà donc la Pérouse, prêt à partir vers des mers inconnues.
Attention, ce n'est pas seulement un voyage d'exploration, mais aussi une entreprise scientifique de grande envergure, avec des savants de toutes disciplines. Et ce n'est pas facile de sélectionner les bonnes personnes dans cette horde bigarrée de scientifiques et d'enthousiastes en tout genre. On dit que la candidature de Bonaparte, qui était prêt à y aller, fut refusée en raison de sa petite taille. Tant mieux pour lui, peut-être. D'autres, comme Monge, le mathématicien, fut tellement sujet au mal de mer qu'il ne dépassa pas Tenerife.
Comme interprète, le jeune Jean-Baptiste de Lesseps.
Oui, alors c'est le futur oncle de Ferdinand de Lesseps
Qui a découvert le canal, enfin qui a construit le canal de Suez.
Voilà. Donc Jean-Baptiste de Lesseps est interprète, et en particulier en russe. Le 28 juin 1785, c'est la dernière entrevue auprès de Louis XVI, dont il nous reste un tableau, un célèbre tableau qui montre une grande table avec une carte du monde étalée sur la table, un globe terrestre. On voit le roi assis à droite et la Pérouse debout, respectueusement inclinée, qui écoute le roi.
Alors on s'installe à bord du bateau et les scientifiques trouvent les conditions de vie assez ahurissantes.
Mais oui, parce qu'il s'agissait...
Ils sortent des salons, donc ça se...
Oui, tout à fait différent, bien sûr. En fait, il s'agissait de tenir pendant de longs mois. Les ponts étaient envahis par des animaux. 5 vaches attachées au pont principal, 30 moutons dans une chaloupe, on imagine les bruits, 20 cochons dans les escaliers... 200 poules qui caquetaient dans des cages le long de la dunette, des poissons séchés suspendus au banc et partout du foin. Et oui, on embarque des marchandises pour quelques années.
Ah oui, c'est ça. La boussole et l'astrolabe, c'est le nom des deux bateaux qui vont naviguer ensemble, prennent la mer le 1er août 1785.
C'est l'expédition la plus longue et la plus coûteuse que la France ait jamais entreprise. De l'Atlantique au Pacifique, explorer tous les rivages, de l'extrême sud à l'extrême nord, et des envois de rapports, de calculs, de croquis, de cartes, furent envoyés à chaque port par un navire vers la France. Et ils sont pleins de détails intéressants. C'est un témoignage formidable qui est aujourd'hui classé au ministère de la Marine.
Alors au début, la navigation est facile. Madère, Tenerife, Trinidad, et il y a le Cap Horn qui est contourné sans problème au large de la Terre de Feu. Et le bateau part vers l'océan Pacifique.
Le nom donné par Magellan, car cet océan était pacifique quand il
faisait beau.
Quand il y passa. Le long des côtes du Chili, donc les bateaux remontent, et puis on arrive à l'île de Pâques, où les Français aperçurent avec stupeur les Moai, ces célèbres statues dont le visage est tourné vers l'intérieur des terres, un mystère toujours inexpliqué. Puis Hawaï, ou avec un peu d'appréhension, puisque Cook y avait été tué, on s'en souvient. Donc, uniquement 7 ans avant.
Ah oui.
La Pérouse y est bien accueillie, lui.
Ils avaient pu
et
faire
pas manger, non, ça va. Les bateaux remontent vers l'Alaska et le détroit du Bering, découvert par Vitus Bering, un navigateur danois, en 1641. C'est un paysage hostile, un labyrinthe menaçant de fjords, de rocs à pic et de glace.
Après ces mois de navigation tranquille, un désastre effroyable survient le 13 juillet 1786.
Un raz de marée d'une violence extrême emporte 3 embarcations qui rejoignaient la côte. La Pérouse perd 21 hommes d'un coup. Les bateaux mettent ensuite le cap vers le sud, mais la Pérouse reste bouleversée et se sent responsable de cette tragédie. On longe la côte californienne, puis cap à l'est vers la Chine. Après 1 an et demi de voyage, ils arrivent à Macao le 2 janvier 1787. Hélas, aucun courrier de France pour la Pérouse. Son fils, il ne le sait pas, est mort à la naissance. Mais la Pérouse sera toujours persuadée qu'un enfant attend son retour sur les rives du Tarn.
Ensuite, ils vont à Manille, sainte de murailles qui fait grande impression sur la Pérouse. Formose, la belle, qui deviendra plus tard Taïwan.
Les deux vaisseaux passent au large de la Corée et du Japon qui ne permettent à aucun étranger d'aborder leur territoire sous peine de mort. Le Japon ne s'ouvrira qu'en 1885 avec les menaces des vaisseaux de guerre de l'amiral Perry. On fait route vers le nord, la Tartarie, le sud de la Sibérie. La Pérouse est le premier à découvrir ces rivages inconnus où abondent loups, lynx et ours, ainsi que le pays des Aïnous, ces hommes barbus, un des peuples les plus énigmatiques de la planète et dont il ne reste que quelques centaines de survivants aujourd'hui.
La tâche principale de l'expédition est de tracer des cartes très précises. Elles sont d'ailleurs toujours justes aujourd'hui.
Et le détroit entre l'île russe de Sakhalin et Hokkaido, au nord du Japon, est appelé le détroit de la Pérouse. Le 6 septembre 1787, soit plus de 2 ans après le départ, ils arrivent à Petropavlovsk, la capitale du Kamtchatka. Petropavlovsk, ça veut dire Pierre-Paul. C'est l'extrémité orientale de l'Asie, c'est l'unique port russe à l'est. C'est le terminus de la longue chaîne de relais de poste des courriers du tsar. Si on se souvient de Michel Strogoff.
Exactement. Voilà. Le jeune Lesseps va quitter l'expédition à cet endroit-là avec les rapports secrets de la Pérouse, scellés aux armes de France. Son retour à travers la Sibérie, la Russie et l'Europe sera assez épique.
Il mériterait presque un personnage insolite à lui tout seul. Donc, son bateau, ça va être un voyage en traîneau, en bateau qui se brise contre les rapides, à cheval. Il mettra 1 an quand même pour arriver à Paris le 17 octobre 1788. Par la suite, il devrait vivre d'autres aventures. Il sera prisonnier en Turquie et vivra la retraite de Russie en 1812.
Alors, la boussole et l'astrolabe quittent le Kamtchatka pour l'Australie.
L'Australie, prometteuse, gigantesque, une sorte de grande énigme solitaire dans le Pacifique. De nombreuses îles sont repérées et explorées. Mais la routine exacerbe les tensions à bord et le climat devient de plus en plus difficile. Et à Samoa, une attaque terrible des Polynésiens d'une cruauté et d'une rage inouïe allait effacer à jamais de l'esprit de ces marins du XVIIIe siècle le mythe du bon sauvage, cher à Rousseau.
Ben, Rousseau n'a pas fait ce voyage, c'est pour ça.
C'est pour ça.
12 morts vont être le résultat de cette rencontre et 27 blessés. C'est un immense chagrin encore pour la Pérouse.
Le 24 janvier 1788, la boussole et l'astrolabe arrivent à Botany Bay, qui va devenir Sydney. Et là, une surprise les attend.
Voilà, nous sommes donc à Sydney, où la Pérouse est arrivée.
Qui s'appelle encore Botany Bay.
Exactement, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe après?
Eh bien, le spectacle, tout simplement, de la première flotte britannique, une forêt de mâts et de navires, qui est arrivée 3 jours avant les Français.
Oh, zut!
Avec le capitaine Arthur Philippe et aussi 750 forçats, puisqu'on allait faire de Botany Bay une colonie pénitentiaire. Les Français restèrent 6 semaines à Botany Bay pour l'entretien des bateaux, le calfatage, mettre de nouvelles voiles, voilà. La Pérouse, il a 46 ans, il est là et amer. Et il aspirait à rentrer chez lui auprès de sa belle Éléonore.
Le 10 mars 1788, la boussole et l'astrolabe levèrent l'ancre et quittèrent Botany Bay.
Les marins du capitaine Philippe les regardèrent partir en direction du nord en longeant la côte. Ce furent les derniers à voir l'expédition française. La Pérouse, ses bateaux et ses hommes disparurent dans le Pacifique. Et ce n'est que près de 40 ans plus tard que les premiers indices de la tragédie apparurent.
Personne ne savait où se trouvaient les frégates françaises et beaucoup redoutaient le pire.
Le silence de la Pérouse passa d'abord inaperçu. La Révolution broie la France de Louis XVI. La marine royale, dans le tourbillon révolutionnaire, ne survivra pas. Les officiers sont massacrés, guillotinés ou partis en exil. Le retour des bateaux était prévu à l'été 1789, après un tour du monde de 4 ans. Et je rappelle que c'était la plus grande mission scientifique jamais réalisée par la marine française.
14 juillet 1789. Eh ben, la Pérouse n'est pas arrivée, mais c'était la prise de la Bastille.
Et on pense à tout à fait autre chose.
Eh oui.
Un an plus tard, en 1790, certains voulurent mettre sur pied une opération de sauvetage. Mais l'époque est troublée et agitée. Ce n'est tout de même pas une raison pour abandonner la Pérouse à son sort. le 9 février 1791, les députés, avec Mirabeau, décidèrent l'envoi d'une expédition de recherche dans le Pacifique.
Louis XVI n'avait jamais cessé de s'inquiéter pour la boussole et l'astrolabe.
Et l'on rapporte que les derniers mots de Louis XVI, en montant à l'échafaud le 21 janvier 1793, furent « A-t-on des nouvelles de Monsieur de La Pérouse ?» Deux bateaux, la Recherche et l'Espérance, firent route vers l'Australie puis la Nouvelle-Calédonie. Le 19 mai, ils passèrent au large d'une île de l'archipel de Santa Cruz, au nord des Nouvelles-Hébrides. Malgré des volutes de fumée noire, ils ne purent accoster à cause des mauvaises conditions météo.
Et pourtant, c'était précisément là, à cette île de Vanikoro, que l'expédition de La Pérouse avait connu une fin tragique et où des rescapés vivaient encore probablement à ce moment-là.
Mais cette chance unique passa. En France régnait la terreur. Puis ce fut l'ascension prodigieuse de Napoléon, dont on se souvient qu'il avait failli
partir
sur les bateaux.
Il était trop petit, donc...
De taille. En 1804, Napoléon décida d'offrir à la comtesse de La Pérouse une pension annuelle et un appartement au château de Vincennes. En 1827, un certain Peter Dionne entendit parler pour la première fois de deux mystérieux navires qui auraient fait naufrage sur l'île de Vanikoro près de 40 ans auparavant.
Charles X décide une nouvelle expédition pour éclaircir ce mystère des vaisseaux disparus.
Le commandant est Jules Dumont d'Urville. Jules Dumont d'Urville, une petite digression, est célèbre pour avoir découvert dans l'île grecque de Mélos ou Milo, près d'un temple en ruine, une vieille statue dans un buisson d'épines. Et d'abord silencieux, comme pétrifié devant une telle perfection, il finalement décide de l'emporter, mais fait face à des paysans qui ne sont pas du tout d'accord. Et il s'ensuit une bataille homérique où la Vénus de Milo perdit ses deux bras. Et c'est ainsi qu'on la voit au Louvre.
Et voilà, elle est arrivée au Louvre sans bras.
Voilà.
Dumont d'Urville, à bord de l'Astrolabe 2, parvient à Vanikoro, où on lui parle des naufragés, dont certains vivaient encore quelques années plus tôt.
Il découvre aussi des vestiges précieux, des ancres, des canons, des boulets, quand il retrouve l'épave de l'Astrolabe par 4 mètres de fond. À propos de Dumont d'Urville, rappelons aussi qu'il découvrit la terre Adélie et qu'il nomma Adélie du prénom de sa femme. Et en fait, il sillonna toutes les mers sans aucun problème, mais il périt tragiquement à bord d'un train. Le 8 mai 1842, à bord du train Paris-Versailles, qui ne fonctionnait que depuis un an. On déplora plus de 100 morts et ce fut la plus grave catastrophe des chemins de fer français. Donc, revenons à nos bateaux. L'énigme était à demi résolue. On avait retrouvé l'astrolabe. L'épave de la boussole, elle, ne fut retrouvée qu'en 1962, il n'y a pas très longtemps, et à plus d'un kilomètre au sud du premier vaisseau.
Les deux frégates avaient donc fait naufrage. Maintenant, on le sait, ensemble, sans doute lors d'un cyclone tropical.
Ou bien, hypothèse optimiste, les marins expérimentés ont atteint une île où ils coulèrent des jours heureux, tel Robinson Crusoe. On avait, après tout, l'exemple du capitaine Bligh, le célèbre commandant du Bounty, enfin, qui débarquait par son équipage.
C'était un film.
Non, c'est une histoire vraie, pas du tout.
Oui, mais enfin, nous le connaissons, des films.
Débarqué par son équipage mutiné, les mutinés du Bounty, bien, le capitaine Bligh accomplit à bord d'un canot une prouesse incroyable puisqu'il franchit les 6000 miles marins qui le séparaient de l'île de Timor.
Mais malheureusement, il est plus que probable que ce fut un grand drame de l'océan.
Qui inspira pièces, poèmes et romans. Le nom de La Pérouse est commémoré dans le monde entier. Sites géographiques, rues, monuments. Il y a même un cratère La Pérouse sur la Lune. Et à Albi, 3 ancres et plusieurs canons ornent encore aujourd'hui le monument que la ville a élevé à la mémoire de son célèbre enfant.
Ben merci Christine, c'est sur ces tristesses que nous vous quittons aujourd'hui. À bientôt.
À bientôt Elisabeth.
The captain as is our commander. There's the bosun and all the ships. first and the second class passengers.